France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Nous sommes le mardi 1er septembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la rentrée pour 12 400 000 élèves. Une rentrée particulière sur fond de reprise de l'épidémie de Covid-19. Une rentrée masquée donc pour les collégiens et les lycéens. Une rentrée à vivre en direct sur Inter dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Rentrée aussi pour les parents avec le nouveau protocole sanitaire dans les entreprises. Donald Trump, accusé d'attiser les tensions raciales aux États-Unis, va défendre son slogan « L'ordre et la loi » dans le Wisconsin. Relocaliser la production de médicaments en France de la volonté politique à la réalité économique. Et puis la caravane du Tour de France ou comment lancer des saucissons sans provoquer de cluster.
On a invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Que reste-t-il de Beyrouth un mois après l'effroyable explosion du port? Que peut faire Emmanuel Macron qui retourne aujourd'hui au Liban face à cette tragédie humanitaire et économique? Parole ce matin à deux femmes, deux générations, Dominique Edé, romancière et essayiste, et Médéa Azouri, activiste et éditorialiste. Elles seront en direct de Beyrouth avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, un monde plus sobre et fraternel. Est-il possible? Le grand entretien de la matinale avec Nicolas Hulot, donc, et Frédéric Lenoir. Ils signent ensemble d'un monde à l'autre, le temps des consciences, c'est chez Fayard. Vous pourrez dialoguer avec eux, évidemment. 01 45 24 7000.
France Inter.
Trouver la salle de cours, reconnaître les profs, découvrir le CDI, ne pas perdre sa carte de cantine, les lignes à clé de son casier, la grande aventure du collège pour les nouveaux sixièmes, le tout masqué, bien sûr, même en récréation. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Nous suivons depuis hier la rentrée au collège Jean Renoir à Boulogne-Billancourt près de Paris. 182 élèves de 6e vont faire leur rentrée tout à l'heure à 9h. Une rentrée donc évidemment, Sonia, très très masquée.
Oui, les personnels d'entretien commencent à arriver et les fameux masques sont dans les cartons. Ici, dans le département des Hauts-de-Seine, ils sont fournis aux élèves. Le principal du collège Aristide Adécalam nous emmène dans la réserve où le secrétaire d'intendance a entreposé les stocks.
Justement, Paul, tu peux montrer les masques pour les profs et les masques pour les élèves?
Bon, les masques sont déjà rangés. J'en ai deux par enveloppe.
Donc ça, c'est pour les élèves?
Les élèves, aussi pour les profs. Hein.
Ce sont des masques, disons, grand public. Ils sont lavables 20 fois.
On a aussi ce genre de masques, les masques jetables.
Ça, c'est plutôt du secours. Si, disons, un élève se présente, il n'a pas son masque ou il l'a oublié, on lui en donne un.
Les enveloppes seront distribuées aux élèves tout à l'heure. Ce sont les sixièmes qui font leur entrée aujourd'hui et leurs parents seront reçus dans la cour du collège. À partir du moment où ils portent un masque, le protocole sanitaire permet de les faire rentrer, nous a expliqué le chef d'établissement, qui est serein ce matin.
C'est plutôt la joie d'accueillir de nouveau les élèves, les enseignants et de commencer un fonctionnement normal. Je vous me proposerai la question dans 15 jours, je vous dirai peut-être autre chose. Peut-être que le virus aura commencé à circuler encore plus activement. Le gouvernement sera déjà en train d'envisager donc d'autres hypothèses.
L'hypothèse d'un enseignement à distance, les professeurs s'y préparent. Le risque est pris très au sérieux dans ce collège en zone rouge. Les élèves vont recevoir dès aujourd'hui des codes pour se connecter et les consignes en cas de reconfinement local.
Merci Sonia Princé avec Julien Girard pour les moyens techniques. Et dans le journal de 8h, nous serons en direct d'une petite école rurale dans la Sarthe. En tout, ce sont donc plus de 12 millions d'élèves qui font leur rentrée à partir d'aujourd'hui. Tout est prêt pour une rentrée la plus normale possible, répète depuis plusieurs jours le ministre de l'Éducation nationale. Certains élèves, pourtant, n'ont pas vu leurs copains depuis 6 mois. Alors, entre impatience et appréhension, parole d'élèves de l'école Louis de Frontenac à Châteauroux.
J'ai pas très envie d'aller à l'école.
Je vais retrouver les copains et les maths.
J'ai hâte de revoir mes copines, mais sauf que j'ai un peu peur pour les maîtresses parce que j'ai peur que je change de maîtresse.
On était bien en vacances aussi.
L'école, c'est pas trop mon truc à moi.
C'était une année un petit peu bizarre, là, avec l'école à la maison et tout.
Oui.
Ça.
Oui, bah c'était nul.
T'as pas aimé l'école à la maison?
Non.
Bah, l'école à la maison, on travaille pas pareil, on n'arrive pas à se concentrer pareil.
L'agenda, c'est bon. Il manque juste les stylos pour la trousse et puis c'est bon.
Et puis c'est bon, et c'est donc dans cette école de Châteauroux que Jean-Michel Blanquer sera ce matin pour la rentrée avec le Premier ministre et la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Et c'est également aujourd'hui qu'entre en vigueur un nouveau protocole dans les entreprises. La règle générale, c'est le port du masque obligatoire avec des dérogations possibles lorsque l'on est seul, par exemple, dans son bureau ou dans les ateliers, si la distanciation sociale est possible et l'aération suffisante. Protocole pas facile à respecter dans ce petit garage de scooter en région parisienne, où s'est rendue Mathilde Himy.
Dernier effort de la journée pour Hugo, le mécano qui range les motos avant de retirer enfin son masque.
J'ai chaud là, j'en peux plus.
Le nouveau protocole permet de remplacer dans les ateliers le masque par une visière.
Je suis en train de travailler sur un scooter et il faut que je regarde, la visière ça me prend plus de place, ça sera peut-être plus compliqué. Après je ne sais pas, il faut que j'essaye. Il faut peut-être avoir une visière adaptée à ça, qui ne soit pas trop grande, quoi. Qu'on puisse bien regarder sur la moto et tout ça.
Un assouplissement qui fait sens pour Johan, le gérant.
On bouge beaucoup des véhicules, on force beaucoup, c'est assez physique. Du coup, on en bave, quoi. Le masque, ça nous empêche de respirer correctement. C'est sûr que la visière, ça nous aiderait mieux, ça nous libérerait même.
Mais l'abandon du masque se fait sur critères. Une bonne aération d'abord, compliquée dans le petit atelier.
J'ai pas les moyens financiers pour installer une aération correcte. Donc j'ouvre la porte et j'ouvre la fenêtre, ce qui fait courant d'air.
Il faut aussi une bonne distance entre collègues et là aussi ça coince.
Je peux pas avoir un 400 m² pour avoir les distances nécessaires pour travailler avec mon collègue. On est obligé de se croiser. On va chercher les pièces à droite, à gauche. Ah ben non, mais c'est sûr que je peux pas le faire. C'est en l'heure.
Des critères difficiles à respecter à la lettre. Johan et Hugo pensent tester la visière à condition, disent-ils, de ne pas être verbalisés.
Le reportage de Mathilde Dehémy et à noter que les masques sont désormais obligatoires dans les rues de Lyon et de Rouen. Les ventes de voitures neuves en forte baisse le mois dernier, près de 20% de moins par rapport au mois de juillet. Le groupe PSA limite les pertes avec moins 8% quand Renault enregistre moins 20%. La prise de position singulière de Christian Estrosi qui appelle la droite et le centre à passer un accord avec Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2022, sous condition, précise dans le Figaro le maire de Nice qui appelle le chef de l'État à agir avec force pour rétablir l'autorité et l'ordre.
Emmanuel Macron qui est arrivé à Nice hier soir à Beyrouth.
Deuxième visite du chef de l'État en moins d'un mois. Le pays traverse une crise politique, sociale et économique aggravée par l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth le 4 août dernier. Première déclaration d'Emmanuel Macron, c'était hier soir à sa descente d'avion.
Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber, c'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons, sur lesquelles, de mon côté, je me suis engagé à ce que si elles sont prises par le plus vite possible ce gouvernement de mission, la communauté internationale, et évidemment en premier chef la France, puisse s'engager pour être en soutien du Liban et du peuple libanais.
Un propos recueilli par Christian Chéneau et gros plan sur la situation économique du Liban à 7h15 dans le Zoom de France Inter. Donald Trump attendu à Kenosha dans le Wisconsin, une ville secouée par des violences après l'affaire Jacob Blake. Donald Trump qui a fait de la sécurité son nouvel axe de campagne. Il ne rencontrera pas la famille de la victime mais entend s'afficher aux côtés de ses partisans. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter à Kenosha, Omar Waman.
Dans la ville de Kenosha, certains n'hésitent pas à afficher publiquement leur soutien à Donald Trump.
I love Trump.
C'est le cas de Marie, retraitée, qui a planté plusieurs drapeaux américains dans son jardin et une pancarte qui appelle à voter pour le ticket Trump-Pence. Elle se réjouit de la visite du président à Kenosha.
I expect he's gonna drive around.
Je m'attends à ce qu'il fasse un tour et qu'il voit les destructions que l'on a causées à notre ville. Il va ramener la loi et l'ordre dans ce pays.
And he's going to bring law and order back to this country.
La loi et l'ordre, c'est ce que réclame également Kevin, un détective privé de 36 ans qui ne cache pas sa satisfaction.
Je suis très heureux, ça signifie qu'il se soucie de cette communauté. Vous savez, il nous a rendu visite en 2016, ce qui n'était pas le cas de Hillary. C'est quelqu'un que j'aimerais voir réélu ici dans quelques mois.
Mais la visite de Donald Trump ne fait pas plaisir à tout le monde ici. Au sein de la communauté afro-américaine, elle est même perçue comme une provocation. Tanya McLean, une travailleuse sociale de Kenosha.
Il ne vient absolument pas pour apporter la paix à cette communauté. Je crois qu'il vient pour rajouter et causer du désordre. Et j'espère que notre communauté ne tombera pas dans ce piège.
Car si le calme est revenu, la visite de Donald Trump pourrait bien raviver des braises mal éteintes. Kenosha Omar Waman, France Inter.
Un espoir de paix au Soudan après 17 ans d'une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, notamment au Darfour. Un accord a été signé hier entre les autorités et plusieurs mouvements rebelles après des mois de négociations. Accord salué par le secrétaire général de l'ONU. Relocaliser la production de médicaments en France. L'objectif est affiché clairement par le gouvernement. Le chef de l'État devrait en reparler après-demain lors de la présentation du plan de relance avec des financements à la clé. Mais relocaliser, est-ce si simple? Le coût et les règles de la libre concurrence sont de sérieux freins, Véronique Julia.
Un premier objectif affiché dès le mois de juin, c'est de relocaliser d'ici 3 ans la chaîne de production du paracétamol. Des travaux sont déjà engagés avec 3 fabricants, dont Sanofi. Mais son président, Olivier Bogillot, prévient déjà qu'en France, le coût du travail et les impôts coûtent cher. Il faudra donc y mettre le prix.
Ceux qui font des efforts pour avoir des usines de production, des centres de recherche en France et en Europe, doivent être récompensés d'une manière ou d'une autre, avec une politique de prix, des incitations fiscales. Après tout, c'est quand même plutôt bien que les médicaments qui sortent de ces usines soit peut-être avec un prix supérieur à ceux qui viennent de Chine ou d'Inde.
Sauf que depuis des années, la France a précisément fait le raisonnement inverse en développant les génériques pour réduire ses dépenses de santé. Pour l'économiste Karine Milsan, cette relocalisation implique donc un changement de dogme à 180 degrés sur ces médicaments anciens à faible valeur ajoutée mais qualifiés d'indispensables. Elle pose aussi des problèmes de concurrence au sein même de l'Union européenne.
Vous allez distordre en fait les règles du marché. Vous ne pouvez pas comme ça du jour au lendemain imposer un produit, un prix, ou alors vous changez les règles. Et c'est intéressant de voir comment les choses vont évoluer.
Pour l'économiste, le principe d'une relocalisation doit donc se poser au niveau européen et pas seulement français, pour des raisons de concurrence d'abord, mais aussi de taille du marché et donc de débouchés pour les fabricants.
Une rentrée version Covid, on vient d'entendre, une caravane du Tour version Covid également. Le nombre de véhicules et de cadeaux distribués le long des routes a été revu à la baisse et tous les membres de la caravane doivent respecter scrupuleusement les gestes barrières. Alors, comment ça se passe? Reportage de Nicolas Perronnet.
C'est l'un des points sensibles, reconnaît Aurélien Janson, le patron de la caravane du Tour, distribué casquettes, bonbons et saucissons, tout en demandant aux spectateurs de respecter la distanciation.
Bien sûr, ce phénomène, on jette un cadeau, plusieurs personnes viennent pour le ramasser, donc ça, c'est une vigilance particulière. Après, les pilotes et les personnels de la caravane sont formés avec des techniques de jet, des cadeaux.
Des pilotes comme Christophe, 8 Tours de France à son actif.
Si il se trouve, on ne distribue pas. Il faut que ça rentre dans les mœurs et puis ça va bien se passer. Les gens, on leur apporte toujours un moment de bonheur. Et je pense que c'est important dans cette période qui est difficile.
En tout cas, ça ne semble pas perturber Noah qui court dans tous les sens. Sa récolte déjà bien avancée.
Des porte-clés, des sacs, plein de choses.
Et globalement, la consigne est plutôt bien respectée.
La plus grosse folie, ça a été d'aller récupérer les trucs sur la route. On s'est un peu fait engueuler par les gendarmes, mais... À part ça, ça va, non. C'est bien cadré, c'est bien organisé, c'est pas mal.
Les gants sont obligatoires pour tous ceux qui distribuent les cadeaux à la main depuis les 100 véhicules de la caravane réduite. 9 millions de cadeaux à récupérer cette année contre 15 millions l'an dernier.
Nicolas Perronnet sur la route du Tour de France. 4e étape aujourd'hui, 160 km entre Sisteron et Orcières-Merlette. Et Julien Alaphilippe, toujours maillot jaune.
Merci Agnès Soubirand.